One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me here enough, and so I'm planning to go away. Now the children upon their lawn.
Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2. C'est les bébés dinosaures, le retour au milieu de l'été, par surprise. Oui, on sent quand même qu'il y a une certaine torpeur estivale.
J'étais tellement à l'heure que je me suis pris la queue dans la porte du studio.
Oui, laquelle?
Laquelle porte?
Oui, hein,
bien sûr.
Les bébés dinosaures, votre émission animalière sur Canal Sud 92.2, avec accessoirement un peu de musique 70s et puis des rubriques nécrologiques régulières, hein, puisque forcément, nos idoles des 70s tombent les unes après les autres. Et ce soir, ce sera principalement, on rendra hommage principalement à Dusty Hill, je suppose.
Eh oui, en tout cas, via ZZ Top. Donc Dusty Hill est mort le 27 ou le 28 juillet, Wikipédia n'est pas sûr. Donc c'est en tout cas il n'y a pas longtemps, hein, il y a moins d'une semaine le pauvre. Et ils avaient tout prévu, il a été aussitôt remplacé par par Elwood Francis, je ne connaissais pas, c'était le guitar tech du groupe. Donc il devait sentir sa fin venir, le pauvre Dusty Hill.
Je crois qu'il était absent sur le... Ils étaient en tournée, il était absent sur le début de la tournée pour... raison médicale déjà, je crois, me semble-t-il.
Ouais.
Et donc, bah oui.
Ils n'ont pas dit de quoi il est mort, mais... alors, je lis... Billy Gibbons, hein, le guitariste du groupe, a dit... Dusty m'a pris le bras avec ferveur et m'a dit... donne à Elwood le bas du truc, the bottom end. Et qu'il l'emmène au sommet. Give Elwood the bottom end and take it to the top. He meant it, amigo.
Bottom end, ça veut dire quoi?
Ça veut dire l'extrémité inférieure. Mais c'est là, en termes musicaux, c'est-à-dire la basse.
La basse.
Tu vois, c'est les trucs les plus graves, les trucs qui sont vers le bas du spectre sonore. Le gouverneur du Texas a tweeté « Aujourd'hui, nous avons perdu un grand ami et un Texan remarquable. » Mais il y a aussi Paul Stanley et Ozzy Osbourne et Tony Iommi et John Fogerty et Zakk Wylde et David Coverdale. Ouais, ça va moins te réjouir.
Ouais. Tout cela, c'est les prochains sur la liste.
Bon, allez, on écoute un petit ZZ Top des débuts, c'est sur leur deuxième album, Rio Grande Mud, qui est un de leurs chefs-d'œuvre, hein, avec un morceau emblématique pour démarrer l'émission, Chevrolet.
Smell the trees, I think.
ZZ Top, donc bien sûr, un de leurs morceaux emblématiques pour démarrer l'émission, pour un hommage à Dusty Hill. On va s'écouter un autre.
Ouais, allez, une petite citation de Dusty Hill. Someone once asked me to describe my tone, and I said it was like farting in a trash can. What I meant, it's raw, but you've got to have the tone in there. Bon,
C'est comme péter dans une poubelle, c'est ça?
C'est comme péter dans une poubelle, voilà.
C'est son son de basse. Oui, bon, bah, écoute, Dusty, il avait quand même une façon assez imagée de décrire sa musique. C'est un personnage, quand même. Mmh. Enfin, tous les trois, c'est un sacré personnage.
Oui, oui, apparemment, il vit, en 1984, il s'est tiré dessus accidentellement quand son flingue est tombé par terre.
C'est ça, c'est sa copine qui lui a enlevé sa botte. Est-ce que le flingue était dans la botte? Je ne suis pas sûr, je n'ai pas de détails là-dessus. C'était un Derringer, un petit Colt.
Un Derringer, ouais.
Et en tout cas, le flingue est tombé et paf, le coup est parti et il s'est pris dans le bide. Enfin, ça aurait pu être très très grave.
Oui, il aurait pu y rester. Hein.
Il a foncé à l'hosto et il a été finalement sauvé, quoi. Et bon, après, il a quand même dit quelque chose du genre c'est la chose la plus conne que j'ai jamais faite, quoi, vraiment. C'était.
Dans Wikipédia, ils ne mentionnent pas la petite amie. Ils disent qu'il l'a fait tout seul, et qu'il a pris sa bagnole et qu'il est allé à l'hôpital, et que c'est seulement en arrivant à l'hôpital qu'il s'est rendu compte que c'était sérieux.
Il est allé à l'hôpital tout seul, effectivement. Ça, c'est dans la version que j'ai lue, moi, alors peut-être pas sur Wikipédia, je ne sais plus. C'était quand sa copine lui avait enlevé sa botte que le Colt était tombé.
Le Derringer.
Déjà, il se fait enlever les bottes pour sa copine. Bon, je sais pas, mais bon, bref. Dusty Hill, quoi. Enfin, c'était voilà, des cow-boys,
et,
quoi.
Et là, ils disent que le Derringer était dans la botte et qu'il est tombé de la botte et que bam. Voilà. Bon. Ok.
Eh bien, on va écouter un autre morceau de ZZ Top, mais chanté par Dusty Hill. Alors, dans ses groupes précédents, il était chanteur. Il était chanteur-bassiste. On parlera tout à l'heure d'un de ses groupes précédents. Il est arrivé dans ZZ Top très tôt avec son complice, le batteur, là, Frank Bird. Mais pas au tout début, en fait, hein, puisque les ZZ Top avaient déjà sorti un 45 tours. Avec un autre line-up, il y a Billy Gibbons et les deux autres gars. Mais ça n'a duré que très peu de temps, ce line-up. Là. Et donc, Frank Bird est arrivé d'abord, je crois. Et il connaissait déjà Dusty Hill. Il avait joué dans différents groupes avec lui. Et il l'a ramené dans le groupe. Et c'est devenu le line-up de ZZ Top jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je pense que Frank Bird est toujours dans ZZ Top. Je n'ai pas vérifié, à vrai dire. Mais... donc, on va s'écouter un des morceaux que Dusty Hill chantait. Alors, quand il est arrivé dans ZZ Top, c'était Billy Gibbons, le boss, quand même. C'est lui qui composait le plus. Et c'est lui qui chantait la plupart des morceaux. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient chantés par Dusty Hill. Et le plus connu, le plus gros tube chanté par Dusty Hill, c'est Tush.
Ah ouais.
Tush, ça a été un énorme tube. Ça devait être sur Fandango, si je me rappelle
exactement.
Bien.
Exactement. Sur la face studio de Fandango, parce qu'il y avait une face studio, une face live.
Ils avaient déjà eu des tubes, ils avaient déjà sorti La Grange, etc. Mais Tush a été leur premier vrai tube national, classé assez haut dans les charts, apparemment. Premier 45 tours qui a vraiment marché à fond. Quoi.
Et le riff de Tush a été repompé par Motorhead, si je me souviens bien.
Ah, c'est un riff effectivement efficace.
C'est pour... Alors, quel morceau de Motorhead? Je ne sais plus.
On va s'écouter, ouais. Ça nous reviendra peut-être.
Il y a sûrement un article Wikipédia sur Tush.
Voilà. Tush, j'ai longtemps cru que c'était le shit, quoi, mais non, pas du tout. Enfin, apparemment, c'est
pas plutôt
du
le fessier. Mais...
Oui, voilà, le fessier ou alors une pièce de barbac. Mais effectivement, les paroles semblent. I'm looking for some Tush, c'est je cherche du cul, quoi. En fait. C'est les paroles de ZZ Top étaient souvent assez.
Je cherche la fesse.
Voilà, en gros, c'est ça. Tush, donc ZZ Top, c'était en Fandango 75, quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça, ou 14, on va voir.
I've been good, that was
donc ZZ Top, leur grand succès. Période, bien sûr, avant leur virage dans les années 80 vers une musique plus pleine de synthétiseurs et plus dansante, on va dire. Mmh. Où là, ils ont eu un succès encore plus énorme, encore plus international. Touch était leur premier énorme tube, quoi, on va dire. Mmh. Et c'était chanté par Dusty Hill, donc le bassiste qui est récemment décédé.
L'album est bien sorti en avril 1975, hein, mmh. L'album Fandango. Bah écoute, on va passer à des gens qui ont connu un succès nettement moins mondial. Enfin, ce 45 tours a eu du succès en France. C'était un groupe danois qui s'appelait Ache, A-C-H-E. Oui, je sais. Ah, les bébés dinosaures, c'est pour te faire découvrir des choses aussi. Et ils ont eu un petit tube quand même, enfin au Danemark, ça a été un grand tube en 70, Shadow of a Gypsy. Et on va s'écouter la face B tant qu'on y est, qui s'appelle Over the Fields. Et Ache, ouais, c'était, pouvait être pas mal. Je pense qu'ils étaient peut-être influencés par R.I.A.P., ça te fera plaisir.
Ah.
Mais oh, un petit peu, ça. Quoi. Voilà. alors toutes nos excuses. En fait, c'est Shadow of a Gypsy qu'on a passé. Je me suis planté de face. Avait... C'est du vrai 45 tours vinyle.
Il y a 45 tours. Il vaut mieux ne pas se planter de face.
Eh, oh, vous y seriez passé d'une façon ou d'une autre. Donc, bah, pour la prochaine fois, alors la prochaine fois ce sera en septembre, on s'écoutera vraiment la face B Over the Fields.
Très bien, on prend date. Cinéma, tiens.
The Sparks.
Pas encore.
Ah,
c'est pour bientôt.
Tu ménages tes effets.
Mais je suis allé voir, dès qu'on a déconfiné là, les salles de cinéma, on s'est fait plusieurs films d'affilée, et notamment le film Drunk. Dont je t'ai peut-être parlé, non, je sais plus, on en a peut-être parlé à l'antenne, je me souviens plus vraiment.
C'est pas tout nouveau, ça.
Oh non, c'est sorti il y a déjà un certain temps, et on l'a vu au mois de... en juin, là.
Non, c'est un truc scandinave, non?
C'est un truc, c'est un film scandinave par l'auteur de Festen, Thomas Vinterberg, c'est son dernier film. Moi, j'ai vu Festen et Drunk, j'ai vu aucun de ceux qu'il y a, entre, il en a fait je sais pas combien de temps, je connais le premier et le dernier. Drunk, c'est un film... la manière Winterberg, ça appuie des fois là où ça fait mal. Il y a des moments assez glauques, assez tragiques, assez terribles, mais aussi beaucoup d'humour. Et c'est donc ce film où des quinquagénaires, je pense qu'on en a parlé à l'antenne, là, les quinquagénaires danois, c'est pas, j'ai dit norvégien peut-être, mais non, c'est un danois, des profs, tous un peu largués dans leur vie personnelle, décident de vérifier la théorie qui dit que. Établi par un scientifique très sérieux qui disait que l'humain manque d'alcool dans le sang et qu'avec 0,5 g dans le sang, on va beaucoup mieux, physiquement, psychiquement. Et donc il vérifie la théorie, mais bien sûr il y aura quelques dérapages que tu peux imaginer. C'est un film très très drôle par moments, vraiment hilarant et un peu glauque de temps en temps, mais avec un bon dosage et de la bonne musique. Et il y a un moment où les quinquagénaires vont partir dans essayer de voir si en augmentant les doses, c'est pas encore mieux, tu vois. Et ils vont danser sur un morceau qui m'a tout de suite fait tilter, un morceau qu'on a déjà passé dans l'émission, qui est un classique d'un groupe de la Nouvelle-Orléans. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse le reconnaître. C'est donc un morceau qui est dans la bande-son du film Drunk, morceau des 70s, bien sûr.
Yeah.
Et voilà, un groove torride, un beat louvoyant. C'était les Metteurs, bien sûr. Et le morceau Sissy Strut, sur leur premier album en 69, le premier tube des Metteurs, album instrumental, et exhumé donc récemment sur la bande-son du film Druk, en danois. Que je vous recommande, un film qui peut-être un petit peu à l'affiche, mais bon, qui ressortira d'une manière ou d'une autre.
On espère, oui, c'est Utopia l'avait passé à une époque. Ouais. Eh bien, écoute, on va s'écouter les Sweets, mais alors les Sweets ayant dégringolé de leur gloire quelques années après, en 1982, alors ils avaient perdu leur chanteur, Brian Connolly, qui avait eu pas mal de problèmes, en particulier, si je me souviens bien, il avait été blessé dans une bagarre dans les années 70 et ça avait affecté ses cordes vocales et sa voix. Donc les Sweets étaient depuis un moment en trio avec, je pense, Steve Priest, le bassiste qui devait chanter. Et ils avaient essayé, il y avait certains albums, je crois, comme On the Level ou non, ou pire, il y en a d'autres, j'oublie les titres, je ne veux pas les dire, où ils avaient essayé de faire du progressif. Alors, je crois que c'était un peu inécoutable. Et enfin, j'ai essayé d'en écouter, mais je n'ai pas tenu longtemps. Et par contre, là, ils revenaient à leur style hardos, disons, hardos glam, avec ce morceau, cet album qui s'appelle Identity Crisis, que seul un label allemand a accepté de sortir, parce qu'en 1982, plus personne ne connaissait. Leur ancien public se serait fait hacher menu plutôt que d'admettre qu'ils avaient écouté des suites. Et donc, voilà, en Allemagne, il y avait peut-être encore le facteur nostalgie en 82. Et on va s'écouter le morceau qui donne le titre à l'album, qui s'appelle Identity Crisis.
Sweet. C'est par là.
Find a
Sweet, en 82. Hein. Non, c'est pas... Voilà. Oula, c'est pas mieux quand même. Peut-être pas trop en rajouter. Cinéma, maintenant. Oh, bah, les vraies stars musicales de l'été cinématographique, c'est les Sparks, effectivement. Donc avec le film Annette de Lou Scarax, dont ils ont écrit la musique.
Et dont ils ont, enfin, ils sont un peu à l'origine du concept, quoi.
Ouais, il semblerait, oui.
C'était une espèce de vague scénario de comédie musicale à laquelle qu'ils voulaient faire, et puis bon, qui a été transformé sûrement par Carax. Ouais.
Voilà. J'avais lu quelque part que ça avait été ensuite évolué en un projet d'album concept, etc., qui n'aurait pas été fait finalement. Je ne sais pas du tout ce que vaut le film, ni ce que vaut la musique des Sparks aujourd'hui. Hein. Parce que bon, les Sparks ont une longue histoire et différentes incarnations. Hein. Et le Sparks des années 80, qui ont eu beaucoup de succès en France notamment, partout dans le monde. Bon, à l'époque, j'aimais bien, mais maintenant, bon...
C'est assez disco-rock, si je me souviens bien.
Disco, ouais, électro, un peu. Enfin, je ne suis pas trop convaincant. On préfère les Sparks des débuts, des années 70, qui déjà avaient connu au moins trois incarnations différentes, avec trois line-up différents, et toujours les deux frères Mel, bien sûr, qui sont... depuis toujours la base du groupe. En fait, c'est plus ou moins un duo avec des musiciens autour. Quoi. Et donc, on va retrouver les Sparks avec leur tube, enfin leur premier énorme tube de l'époque électrique, on va dire.
This time ain't big enough for the both of us.
Et bien sûr, sur l'album Kimono My House, si je me souviens bien, à l'origine, mais là, dans une version live, la même année, je pense que c'était sorti en 74, dans le fameux show télé allemand Musik la donne, où les groupes jouaient live pour de vrai. Et vous allez voir que c'est un morceau qui n'est pas évident, a priori, à jouer en public. Hein. Et ben, vous allez voir qu'il se démerde plutôt bien. Donc, une version live de ce classique des Sparks. Et tout à l'heure, on s'en écoutera une reprise, parce que certains groupes ont osé s'attaquer à ce monument du... je ne sais pas comment on peut appeler ça, du rock pompier, déjanté et addictif, quand même. Les Sparks, donc, live en 74. Zutan, Michelin, Utan, the mamas are your food. Tell the lantern to nudge. Hop it, you quiz and hop it. You peel up on the roster, feeding rhinos, elephants, and tacky tigers. This town ain't big enough for the both of us. And the day meal's gonna leave. Enough. c'est quelque chose quand même.
Voilà. Titre tiré d'une citation de... C'était qui? C'était Barnum, non?
Ça, je sais pas.
Un propriétaire de cirque qui avait dit un jour à un de ses concurrents « Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux !»« This town ain't big enough for the both of us !» Et bon, là, il rajoute « And it ain't me who's gonna leave
!» Un morceau quand même spectaculaire et qu'ils arrivaient à jouer sur scène, je trouve, avec quand même pas mal de panache. Et ben, on retrouvera une reprise tout à l'heure de ce morceau.
Alors, je vais tataner ce titre, c'est-à-dire que je vais le prononcer comme je peux.
Non, mais là, c'est du turc, donc c'est pas moi qui vais te reprendre.
Voilà, nos auditeurs turcs sont priés de nous excuser. Donc, c'est un morceau de Erkin Koray, dont j'écorche sans doute le nom, qui est encore vivant d'ailleurs, qui vit en Allemagne maintenant. Il doit avoir plus de 80 ans et... Il est considéré comme le père du rock psychédélique turc. C'est quelqu'un qui avait commencé en faisant des reprises d'Elvis dans les années 60 et puis qui a progressivement rajouté des doses de musique turque dans son rock, mais en même temps en la rendant tout à fait délirante. Et bon, enfin, tout à fait délirante en tout cas. C'était un mix original et qui a inspiré tous les groupes de psychédélique turc des années 70 les premiers disques de lui, vraiment intéressants, donc c'est début des années 70. Et là, c'est on va écouter un morceau qui est tiré d'une compilation qui s'appelle Halimem, la compilation, d'après une des chansons. Et la plupart des morceaux qui sont là sont sortis entre 70 et 72, sur des cassettes, sur des singles, des choses comme ça. Bon. Et c'est complété par trois morceaux de 87, d'une cassette de 87. Parce qu'il a continué, il a fait des tas de trucs. Et j'avais passé cet été déjà Dostachi Salamich.
Ne parle pas d'Amish, hein, c'est un sujet qui fâche en ce moment.
Dostachi Salamich, ça veut dire les vrais amis te disent ce qui les plaise. Hein, c'est quelque chose comme ça. C'est une expression turque toute faite. Ça je l'ai trouvé sur Internet. Hein. Je vous rassure, ma culture turque est très limitée. Et je n'ai pas fait la même recherche sur Gelbak Nesel İstem. Qui est le titre de la chanson qu'on va s'écouter là, qui était sortie à l'origine en 1970 en single.
Alors, redis-nous son nom, allez.
Erkin Koray, avec un groupe, il était accompagné par un groupe, Yeralti Dörtlüsü.
C'est parti.
Thank you. Gay back non solitem. La magie internet m'apprend que ça veut dire quelque chose comme viens voir ce que je vais dire. Donc,
ah bah on a entendu, hein.
Voilà. Gay back non solitem. Bon, je sais pas. Si tu dis ça en Turquie, je sais pas si c'est dangereux ou pas.
Ouais, faut faire gaffe quand même. Ouais. Ce moment.
En tout cas, ça envoie un max. Et ça, oui, ça c'est un des morceaux les plus rock. Il y a un petit côté un peu tribal dedans, mais pas le côté oriental est pas tout à fait en avant. Il y en a d'autres qui ont un côté plus musical.
Mais ton parallèle que tu faisais oriental avec le Zamrock, par exemple, et c'est vrai que c'est assez frappant. Ouais. Le son de guitare, notamment, le côté hypnotique. Là. Un peu tribal, ah non, c'est très très bon.
1970, hein, sorti en 45 tours avec son groupe qui s'appelait, alors je ne saurais plus vous le dire parce que j'ai plus la pochette sous les yeux, mais c'était un nom de groupe assez rigolo. Enfin, t'as des pages Wikipédia sur Arkin Korai, bien sûr, tu peux te renseigner sur lui. Voilà.
Eh ben, on va rester dans l'exotique, un peu sauvage, à vrai dire, avec un extrait de la compile Jungle Exotica Volume 1.
Oh là.
Ça, c'est des vieilles compiles. Ça existait déjà dans les années 90. Il me semble qu'elles étaient distribuées par Crips Records, qui était spécialisé dans ces compiles un peu farfelues, et qui rassemble des tas de morceaux très rigolos, qui donnent une vision de, comment dire, des pays tropicaux, de la jungle, assez bariolés, on va dire.
Peut-être un peu interdite au moins de 18 ans, parce que
de temps en temps.
Exotica en général, souvent.
Oui, il peut y avoir des petits sous-entendus salaces, bien sûr. C'est assez varié, c'est plutôt des groupes des années 60, hein, quand même, voire 50 même, avec des novelty songs, avec des trucs qui déménagent souvent, qui sont très dansants et qui sont complètement débiles, à vrai dire, la plupart du temps. Et sur cette compile, par hasard, je suis tombé sur quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on passe souvent, mais à une époque où il utilisait son vrai nom, et un peu avant notre période de référence, c'était en 67. Mm-hmm. Mais on a le droit de passer des gens, hein, donc on l'a beaucoup plus écouté sous son nom de scène, mais je vais vous laisser découvrir qui ça peut bien être. Alors je vous dis pas son vrai nom, parce que peut-être ça évoquera quelque chose, ce sera trop facile, je sais pas. Moi, à vrai dire, c'est un double album, donc si tu veux, j'avais survolé vaguement les noms de groupe, mais ça m'a pas frappé au premier abord. C'est en écoutant le morceau que je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, mais c'est... mais oui, c'est lui. Et effectivement, c'est bien lui. Mais en 67, donc, le morceau s'appelle Island Hog. Et je vous dirai tout à l'heure de qui s'agit, mais certains vont reconnaître, j'en suis sûr. Yeah. son vrai nom était Tony McKay. C'est sous ce nom-là qu'il a sorti ce Island Hog, qui figure donc sur le volume 1 de Jungle Exotica, qui est sorti en 45 tours, je pense, en 67. Mais ces hurlements, ces braillements, ces coups de sifflet, ce côté un peu vaudou, là, c'était Exuma, bien sûr.
Ah, d'accord.
Et oui, on reconnaît sa voix quand même. Alors, quand il est devenu Exuma, sur les deux premiers albums, il a quand même un peu ralenti le tempo. Il y a une instrumentation beaucoup plus sobre, mais tu retrouves un peu la même chose. Les coups de sifflet, la guitare acoustique en fait, hein, derrière, plusieurs guitares acoustiques même parfois. Des percussions, des chœurs un peu qui partent dans tous les sens, et puis ce côté totalement hypnotique et répétitif. C'est Exuma, donc, sous son nom, son vrai nom, dans, au début de sa carrière, donc son nom de Tony McKay.
Eh bien, écoute, tout à fait intéressant. Effectivement, il y a cet aspect un peu, comment dire, je sais pas, Golfe du Mexique, Caraïbes, qui est fort chez Exuma.
Ah oui, oui.
Et qu'on retrouve dans ce morceau.
Ouais, c'est quelque chose qu'il avait ramené dans le blues new-yorkais, parce que tu sais que, encore avant cette période-là, 67, là, il était dans le circuit folk à New York.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Alors, tout seul en acoustique, mais il a porté ses influences là, des îles, quoi. Et c'était déjà un personnage, disons, reconnu sur la scène, quoi.
Ok, et eh bien écoute, en voilà un autre groupe, alors là, sur lequel je ne sais à peu près rien, qui s'appelait Stelius, S-T-E-2-L-I-U-S. Je crois qu'ils ont fait un disque. Quand tu regardes les couleurs, alors, mélange de rouge, d'orange et de violet, c'est 1970, tu tout de suite, ça... Il n'y a pas besoin qu'il marque la date dessus. Hein. Surtout avec le lettrage, les lettres un peu molles, tu vois. Là. Alors, il y a bien sûr une face A qui s'appelle I Want a Girl. Je te le prêterai pour tes booms, pour la séquence slow, quoi.
Voilà. Après, on ira.
Après, Exact Varoum et 19 White Satin. Et... Bon, mais on va s'écouter la face B. Là, j'ai regardé, j'ai fait gaffe. C'est bien la face B. Ça s'appelle What I'd Like.
Bah, de la fesse, bien sûr.
Understands me.
That's what I'd like, spend a night with you. Bon. Oui, bon, c'est, les paroles, c'est pas...
C'est un peu le même thème que la première phase.
Oui, oui, tout à fait. Par contre, l'exécution, là, saut de batterie, saut de basse,
très psychédélique,
grand cri, c'est très chouette.
Très bien. T'as bien fait de pas te tromper de face, à mon avis.
Ouais, voilà. Et ça aussi, c'est la brocante de Répian. Mais n'y allez pas, parce que il y avait une petite caisse, et je crois que j'ai à peu près réglé tout ce qui... ce qui était intéressant.
Pour
nos goûts, en tout cas. Mais...
je te dis pas, ça, c'est... tu as fait une razzia, mais ce que tu as dû laisser, ça doit être quand même assez abominable.
Non, il y a des trucs que j'avais déjà. Bon.
Parce que dans ce que tu prends, des fois, il y a quand même des trucs relativement abominables.
Ah non, mais il y avait des trucs abominables, parce que tu sais comment c'est. J'en prends un gros paquet pour négocier avec le gars et pour qu'il soit content. Donc, parce que sinon, j'aurais dû payer 1 euro le 45 tours. Je trouve que c'est trop. Tu vois. En total, ils me sont revenus à 50 centimes. Mais à vrai dire, si je regarde juste les intéressants, oui, d'accord. Bon, enfin, bref.
Bon. American Blues.
Ah, c'était le groupe des frères Hill.
Alors, c'est ça, oui. Juste avant que...
Je l'ai appris il y a 5 minutes.
Que Dusty Hill et Frank Beard, qui était le bassiste du groupe, rejoignent ZZ Top, enfin, rejoignent Billy Gibbons et prennent la place des deux autres musiciens qui accompagnaient Billy Gibbons dans le tout début de ZZ Top, après le premier 45 tours. Donc, il y avait son frangin, ouais, Rocky Hill, à la guitare. Ils ont eu, je crois, un organiste aussi à un moment, ou enfin, un quatrième membre, il me semble, je ne sais plus. Tu sais que Rocky Hill... il paraît, certains disent, qu'il a beaucoup influencé Stevie Ray Vaughan, qui était du Texas aussi. Hein, qui... C'était, paraît-il, quelqu'un. Alors un autre guitariste émérite, dont j'oublie le nom malheureusement, l'a décrit comme étant le guitariste le plus sauvage du Texas. Donc apparemment c'est un phénomène. Bon, ça s'entend pas forcément sur tous les morceaux du deuxième album d'American Blues, parce que je ne connais pas le premier. Le premier est sorti en 68. Il s'appelait merde, j'ai oublié le titre, je sais plus. Le deuxième s'appelait Do Their Things, et je crois qu'il est sorti en 68 aussi, enfin je sais plus. Ouais, c'est ça, deuxième album sorti en 68. C'est quand même un groupe qui cherchait un peu son style, hein. Alors, il s'appelait American Blues, mais il n'y a pas grand-chose de blues dans ce qu'il faisait, en fait. Tu as des morceaux, on dirait un peu l'ambiance San Francisco, tu sais, un peu psychédélique, pop psychédélique, un peu barré. Il y a un morceau, c'est du Hendrix pur jus, très, très bien envoyé d'ailleurs, on s'écoutera sans doute dans une émission future. Il y a des morceaux qui ont été comparés à Cream, enfin bon, disons que c'est des morceaux un peu bizarroïdes, avec une construction très complexe et tout. Il y a une ou deux ballades aussi, un petit peu chiantes, bon. Il y a un peu de tout, quoi, à vrai dire. C'est pas grandiose, hein. Mais il y a des choses intéressantes. Là, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Chocolate Ego. Et alors, en fait, tu vas voir, ça ressemble plutôt à de la pop psychédélique britannique. C'est assez curieux. Bah non, c'était Dusty Hill et Rocky Hill. Et Frank Beard, d'authentiques Texans, dont deux d'entre eux donc, finiront dans ZZ Top, ce qui n'est pas évident à deviner quand on écoute ce morceau. American Blues. Hop là.
I would be
Dust Hill, donc juste avant de rejoindre ZZ Top. Il y a eu un changement de registre quand même assez net. Il était chanteur et bassiste là, dans ce groupe American Blues, où il y avait déjà Frank Bird, le futur batteur de ZZ Top, et donc son frangin Rocky Hill à la guitare. Ils jouaient tous les trois déjà dans au moins deux autres groupes précédents. Dès le milieu des années 60, il y avait les Cellar Dwellers, je crois, et puis The Warlocks. Donc c'était quand même déjà des musiciens, disons, qui avaient un certain background, comme Billy Gibbons, qui jouait aussi dans les Moving Sidewalks, dans les 60s. Voilà. Tu m'as l'air bien concentré sur...
On va se passer un peu de... Comment il s'appelle ? Dies Irae.
Ouais.
Groupe allemand de blues psychédélique, un petit peu influencé par Black Sabbath.
T'as amené quelque chose de Black Sabbath ?
J'ai amené quelque chose de Black Sabbath. En espérant que tu amènerais quelque chose, mais...
J'ai amené quelque chose d'Ozzy Osbourne.
Ah, ouais.
T'as eu un documentaire sur Ozzy Osbourne, sur Arte.
J'ai amené quelque chose de Black Sabbath sans Ozzy Osbourne.
Oh, malheur ! On l'a déjà fait. Une fois, ça suffit sur l'année, non ? Tu crois pas ? Oula !
Oh, bah, bon...
Bon, on va voir, on va négocier.
Voilà. En tout cas, j'ai déjà passé un morceau de ce disque, le premier album de Dies Irae qui s'appelle First, parce que, tout simplement, sorti en 71, si mes souvenirs sont bons. Et on va se passer le morceau qui s'appelle Tired, et c'est sur le vinyle numéro 1. Voilà.
Behind you, start living in your dream. Fly, don't feel joint, get on a trip. You know what I mean. This world is great, so good.
Diaciré. Alors ça c'est un morceau qui fait 9 minutes 13, je le passerai un de ces jours, je crois que ça s'appelle Witches Meeting, et ça a un côté nettement plus jeté, et là c'était du blues rock assez
ouais,
standard.
Boogie blues, ouais, pas mal, pas mal.
Mais ils ont fait des trucs plus délirants.
Bon alors on a eu un débat, donc Black Sabbath sans Ozzy Osbourne ou Ozzy Osbourne en solo, bon allez Ozzy Osbourne en solo, et puis c'est pour rappeler que vendredi soir Ozzy Osbourne était sur Arte, avec le documentaire Les 9 vies d'Ozzy Osbourne, et plutôt pas mal, le fan n'apprendra pas grand chose, mais c'est découpé en chapitres donc de ses tout débuts de son enfance, hein, de sa jeunesse, de Black Sabbath, et puis finalement il y a une grosse partie de sa carrière solo qui a été beaucoup plus longue finalement que sa carrière avec Black Sabbath, et qui a eu beaucoup plus de succès aussi quelque part. C'est quand même un mec qui a été une star avec Black Sabbath, qui a été lourdé de Black Sabbath plus ou moins.
Hein. Ah tout à fait.
Oui, enfin, pas, complètement. Hein. Oui. Pour des raisons qu'il reconnaît lui-même, quoi. Enfin bon.
Il branlait rien.
Oui, et puis bon, il avait un sérieux problème de drogue, comme les autres, et d'alcool en plus, peut-être mais un peu plus lourdement que les autres.
Il les dominait peut-être moins que les autres. Ouais.
Voilà. Et puis il a rebondi, il s'est lancé dans une carrière solo soutenue par sa manageuse qui est devenue sa femme, Sharon.
La fille de Don Arden.
Oui, qui était déjà plus ou moins liée à Black Sabbath. Quoi.
Oui, ça avait été le manager beaucoup de groupes, et en fait c'était connu comme un manager gangster. Hein.
Oui.
Intérêt à ne pas être d'accord avec lui, il envoyait un mec pour te casser la gueule. Hein.
Ah bah c'était les mœurs de l'époque. Hein. Et donc Sharon était sans doute beaucoup plus douce. N'empêche qu'il a quand même tenté de l'assassiner un soir de beuverie. Quoi. Enfin, ça fait partie de ces. Alors, c'est même plus une frasque, là. Enfin, c'est de ces dérapages. Bien sûr, tout y est passé. La décapitation de la colombe devant les pontes de je ne sais plus quel gros label qui l'avait convoqué pour voir s'ils allaient le signer ou pas. La fois où il a décapité une chauve-souris en croyant qu'elle était en plastique, qu'il était obligé d'aller se faire vacciner contre la rage, avec photo d'Ozzy Osbourne, les fesses à l'air, et puis après le commentaire « Oh putain, c'est pas marrant de se faire vacciner contre la rage !» Et puis la fois où il a pissé sur Fort Alamo, il s'est fait emprisonner, etc. Et sa tentative d'assassinat sur sa femme. Comment elle a vécu ça et tout. Sharon est interviewée, bien sûr. Il y a des moments presque émouvants, enfin, tu vois, et Sharon qui explique, c'était quelqu'un quand il était sobre, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand il était sobre, il était drôle, il était attentionné, quand il était bourré, c'était un monstre, quoi. Et bon, ces cures de désintoxication, il y en a une qui a duré un certain temps quand même, et puis il sort, et je demande à Sharon, alors combien de temps il a tenu après sa sortie, bah, réfléchis un peu, il dit, oh, 45 minutes. Et puis après, bon, il y a les enfants qui sont interviewés aussi. Il avait déjà deux enfants d'un premier mariage. Il en a eu trois, je crois, avec Sharon. Et une carrière solo qui a été incroyablement fructueuse, avec des drames aussi. La mort de son guitariste dans un accident d'avion, qui aurait pu coûter la vie à lui aussi, puisqu'il y a une partie de l'avion qui a touché le bus dans lequel ils étaient, sur le tarmac de l'aéroport.
Il faisait la course avec le bus, c'est ça?
Alors, ça, il l'évoque pas, ça, dans le reportage. On ne sait pas trop, il ne donne pas les détails, mais bon, c'est un accident à la con, quoi, de toute façon. Et donc, il y a eu des drames incroyables, et puis des moments où il était vraiment dans le fond du trou, où il voulait relancer sa carrière, faire des festivals, mais aucun festival ne voulait de lui. Alors, ils ont eu une idée brillante avec Sharon, et bon, on va faire notre propre festival, et puis c'est tout, et puis allez tous vous faire foutre. Et ça a eu un succès énorme, bien sûr. Enfin bref.
Et puis quand même, faire de sa vie un reality show.
Et puis devenir une star de la télé avec un reality show, effectivement, qui a duré plusieurs saisons, qui était diffusé à la télé française. On loupait pas un épisode. Il a été diffusé, c'était dans les années 90, je pense, ou peut-être un peu après, je sais plus trop. Et c'était hilarant, enfin par moments un peu glauque, hein, parce que c'était quand même vraiment la vie quotidienne de la famille Osbourne, et il s'en passait de belles. Mais il y avait beaucoup de moments totalement hilarants. Donc c'est une multistar, quoi. Et puis c'est vrai qu'il a toujours des commentaires assez amusants. Par exemple, il expliquait, il montrait ses tatouages à un moment, là, vers la fin du reportage, il montre ses tatouages. Oh, celui-là, je me le suis fait moi-même et tout. Les lettres Ozzy, c'est lui-même qui se les a faites et tout, quand j'avais 16 ans. Je vois. Oh, celui-là, je l'ai fait à 14 ans, c'est mon premier tatouage. Oh putain, mon père m'a foutu une branlée mémorable et tout. Ah, celui-là, je l'ai fait en prison, c'est parce qu'il avait braqué. Il avait braqué une épicerie ou je sais pas quoi, un magasin qui était juste en face de sa maison. Quoi. Quand il était mineur encore. Et puis après, et moi j'ai deux choses à dire sur les tatouages. Première chose, le tatouage c'est éternel, c'est pour la vie. Alors faut faire bien gaffe à ce que tu fais. Quoi. Voilà, celui-là par exemple, bon, bref, c'est pour la vie les tatouages. Puis une deuxième chose, oh putain ça fait mal. Et puis il y a aussi une autre anecdote, et qui est la raison pour laquelle j'ai amené cet album. C'est la fille qui raconte, la fille aînée est toujours restée très discrète. La fille cadette a fait une carrière plus ou moins dans la chanson, enfin bref. Elle avait des problèmes de drogue aussi. Enfin, bref. Et elle raconte, il essayait d'être un bon père, d'être un père attentionné, mais bon, par exemple, une fois, j'étais toute petite, j'invite mes copines à la maison, alors on fait un gâteau, machin et tout. Et il y avait toutes mes copines qui étaient là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il n'a pas eu une meilleure idée que de venir déguisé avec son maquillage qu'il avait utilisé pour l'album Bark at the Moon. Un truc de loup-garou totalement effrayant avec des grandes dents. Et toutes les petites, toutes mes copines, elles étaient effrayées. On s'est cachés, elles pleuraient toutes. Il a fallu appeler les parents et tout pour qu'ils viennent les chercher. Il m'a ruiné ma fête d'anniversaire. Et donc, on va s'écouter Bark at the Moon, le morceau tiré de l'album Bark at the Moon, qui doit être
le troisième, non?
Troisième album solo. Mmh. C'est encore pas mal, quoi. Les deux premiers sont les meilleurs, parce qu'il y avait Randy Rhoads. Là, c'est un mec qui s'appelle James E. Lee à la guitare. Sinon, c'est toute la bande de Rockin' Studio qui l'accompagnait habituellement, on va dire. Et ça reste pas mal, quand même, Bark at the Moon. Mais là, il commence à prendre ce virage un peu plus commercial, quand même. Parce que s'il a eu beaucoup de succès, c'est qu'il a fait aussi un hard assez pop, assez mélodique, avec des refrains faciles à mémoriser, et puis quelques ballades de temps en temps. Donc là, on s'écoute le morceau titre de cet album solo. Ça s'appelle donc Bark at the Moon. Et ma foi, ça reste du métal tout à fait réjouissant, il faut bien l'avouer. We'll be right back. Ah voilà, bah, c'était Jacky Lee, là, c'était quand même aussi un Guitar Hero, mais c'était pas Ronnie Rod, il avait un son plus classique, on va dire. Et Ozzy Osbourne, donc, avec l'album Bark at the Moon, son troisième album solo en 83.
Eh bien, écoute, on se refait un petit ZZ Top avec Backdoor Love Affair, un titre qui se passe de commentaires. Backdoor Love Affair, tiré du premier album de ZZ Top.
Voilà. Eh bien, écoute, on continue à rendre hommage à Dusty, je pense.
Oui, pas de problème.
Dans, alors, les semaines qui viennent, il risque de ne pas y avoir trop de bébés dino, mais
ben on va rentrer. Non, on ne sera pas dans les parages. Premier dimanche où je peux garantir que je serai là, ça sera le 20 quelque chose août.
26, 27, là, non ?
Ouais, par là.
Moi, j'y serai pas, mais.
Le 23 est un lundi, donc ce sera le 29, je pense.
D'accord. Oui. Mais je devrais y être pour la fois d'après.
Très bien. Très bien, parce que la fois d'après, qui sera le 5 septembre, je n'y serai pas.
Ah, d'accord. On va faire la rentrée tout seul, alors.
On va faire en décalé, quoi.
Donc, on s'écoutera cette reprise Sparks que je vous ai promise là, tout à l'heure, à la rentrée, finalement.
J'ai promis d'aller en Italie. Je vais me faire une douce violence. Je vais passer une semaine dans un petit palais Renaissance de Toscane.
Oui, bah.
Pour le travail, pour le travail.
Mais
je suis obligé.
Sûr,
je,
mais bien
je,
sûr.
Je...
Évidemment.
Bon. Bref, alors, il y a le jingle, là, le jingle impossible.
Attends, c'est celui-là. Et non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, bah, c'est celui-là.
Le jingle qui n'arrive jamais. Fromage chèvre. Sabot et Vielaroux. Non, il n'y a pas de Vielaroux là.
Oh putain, heureusement quoi.
La vieille roue est avec la bombarde, une arme de destruction massive interdite par la Convention de Genève.
C'est... Et les voix de Sir Gwedek, c'est aussi quelque chose.
Ah ben, il fallait qu'elle passe par-dessus les bombardes.
C'est ça.
Bah écoute, après tout un tas de groupes exotiques et tout ça, là, c'est un groupe toulousain qui s'appelle Cocagno, donc Cocagne. Et donc, pour bien indiquer que c'est un groupe toulousain. Et qui ont sorti leur deuxième album ben, en 2020, les pauvres. Il y avait plein de trucs prévus, puis tout a été foutu en l'air. Mais ça recommence, elles tournent, elles jouent, elles vont. Donc c'était un trio, c'était trois femmes, maintenant c'est deux femmes. Donc elles se produisent en duo. Et elles sont passées à la cave poésie il n'y a pas longtemps, là, début de l'été. Avec la moitié, enfin avec deux musiciens de rock plutôt punk, un bassiste et un batteur, et ça faisait un bruit abominable. Parfois, ça couvrait la voix des chanteuses, mais elles m'ont dit c'est exprès. De temps en temps, ne pas avoir la voix devant, on veut faire ça aussi. Donc, ça criait en tous les coins. C'était du folk hard. Enfin, je ne sais pas comment il faut le décrire. En tout cas, ce n'est pas ça qu'elles font sur cet album qui s'appelle Puput. Alors, non, mais c'est parfaitement correct. C'est le nom d'un oiseau.
Ah,
c'est
bien sûr,
une,
oui.
La huppe, je ne sais pas quoi. En occitan, ça s'appelle loup puput. Tu sais, il y a un oiseau qui s'appelle le pipit en français. Ce n'est pas tellement plus joli. C'est un album, finalement, j'ai réécouté. C'est pas mal du tout. Ça, c'est du folk assez quand même transformé. Avec la production de Raoul Refré, qui est un Catalan. Ça a été enregistré en juin 2019, déjà, en Catalogne. On va s'écouter un des morceaux. Alors, je signale qu'elles sont récemment passées au Festival des Suds à Arles. Elles ont eu un article dithyrambique dans Libération. Alors, et désormais, en live, c'est en duo. C'est juste les deux historiques, Caroline Dufaux et Lila Freis. C'est des gens très sympathiques, géniales, excellentes. Il faut acheter leurs disques, les soutenir quand elles passent à Toulouse, parce qu'elles tournent souvent sur Toulouse. En tout cas, on va s'écouter sous Camille des Saint-Jacques.
Ah, j'ai compris.
Un traditionnel quelque peu revisité.
Et le nom du groupe, déjà, c'est quoi ?
Cocagno.
Cocagno, d'accord.
Cocagno en français, si tu veux.
Se domanda na bua, se domanda na bua, nous le zin servirum dun, din nous le zin servirum dun, dun se nes domanda loja, se nes domanda loja, nous le zin balerum dun, din nous le zin balerum dun, dun.
Tu m'es zoudon,
Sylvain, et on se Sylvain qu'on retrouvera à la rentrée, probablement, quelque part. En tout cas, le 5 septembre, au plus tard. Hein, promis, juré, craché par terre. Pour ce qui est de Tommy Boy, il y a des chances que le dimanche d'avant, alors ça doit être le 29 août, un truc comme ça, où on le retrouve à l'antenne. Et pour le moment, on vous rappelle simplement que les bébés dinosaures, quand c'est pas l'été avec plein de gens qui sont en vacances et qui vont glander un peu partout, au soleil ou sous les orages, on est sur Canal Sud 92.2 MHz à Toulouse tous les dimanches de 21h30 à 23h, rediffusion 8 jours plus tard les lundis de 15h30 à 17h. On dirait le lundi, c'est un jour après le dimanche. Oui, mais l'émission la même, vous la retrouvez que 8 jours plus tard, pas le lendemain. Et vous pouvez écouter de toute façon les émissions en streaming et aussi récupérer les anciennes émissions, et les anciennes dès qu'elles ont 24 heures d'ancienneté en général, hein, quand on s'organise comme il faut, par le site de Canal Sud qu'on trouve à l'url www.canalsud.net. Et donc là, tous les MP3 des émissions depuis presque une dizaine d'années sont disponibles en téléchargement ou en streaming gratuitement, comme vous voulez. Simplement, ça prend un peu de temps de fouiller dans le paquet d'émissions. Hein, mais bon, voilà. Pour ceux qui ont raté une émission, qui ont envie de l'écouter, c'est toujours possible. Vous voyez comme on est bon avec vous. On va vous conseiller d'écouter de toute façon Canal Sud 92.2 MHz et le Canal Sud en streaming, enfin oui, en streaming on peut dire, en direct par internet tout le temps, partout dans le monde sur www.canalsud.net. Et on vous dit à la semaine prochaine et protégez bien vos oreilles. Voilà. Non, on ne vous dit pas la semaine prochaine, qu'est-ce que je raconte, on vous dit la semaine prochaine, ça sera de la rediffusion, au mieux, non, on vous dit, allez piocher dans les anciennes émissions, parce que la prochaine qu'on va faire, probablement à l'antenne en direct, il y a des chances que ce soit que le 29 août, mais bon, si d'ici là, on passe à Toulouse un dimanche soir, hop, on a la clé, on s'introduit dans les studios et zou, on passe un paquet de 45 tours qui semble sorti des poubelles ou des choses tout aussi douteuses. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera toujours les bébés dinosaures. Bon, allez, il doit y avoir un jingle de fin quelque part. Il faut que les pires choses s'arrêtent.
Come back. Don't nobody tells any foot jokes anymore since